Votre oncle est-il en bon terme de commerce avec les Bardi ? Poursuivit le cardinal.
Certes, monseigneur, certes, les Bardi sont vos banquiers, je crois.
Oui, ils sont mes banquiers, mais je les trouve ces temps-ci moins aisés de rapport que par le passé. Ils forment une si grosse compagnie, ils ont des comptoirs en tout lieu, et pour la moindre demande, ils doivent en référer à Florence. Ils sont aussi lents qu'un tribunal d'église. Votre oncle a-t-il beaucoup de prélats parmi ses pratiques ?
L'esprit de Guccio n'était guère aux questions de banque. La brume s'épaississait sous son front, ses paupières brûlaient.
Nous avons surtout les grands barons, le comte de Valois, le comte d'Artois. Nous serions hautement honorés, monseigneur, dit-il avec une courtoisie machinale.
Nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, vous voici à l'abri dans ce couvent.
Vous passerez pour un homme à mon service. Peut-être vous fera-t-on revêtir une robe de clerc.
Je verrai cela avec mon chapelain. Vous pouvez vous dépouiller de cette livrée et aller dormir en paix, ce dont vous montrez avoir grand besoin.
Guccio salua, bredouilla quelques mots de gratitude et fit un mouvement vers la porte, puis, s'arrêtant, il dit
« Je ne puis encore me dépouiller, monseigneur. Je dois délivrer un autre message. »
« À qui ?»
demanda Duez, aussitôt soupçonneux.
« Au comte de Poitiers.
Confiez-moi la lettre. Je la ferai porter tout à l'heure par un frère. »
« C'est que monseigneur, messire de Bouville, m'a enjoint. »
« Savez-vous si ce message a trait au conclave ?»«
Nullement, monseigneur. C'est au sujet de la mort du roi. »
Le cardinal sauta de son siège.
« Le roi Louis est mort ? Mais que ne le disiez-vous plus tôt ?»«
On ne le sait point encore ici. Je pensais que vous en étiez averti, monseigneur. »
En vérité, il ne pensait rien. Ses malheurs, sa fatigue lui avaient fait oublier cet événement capital. Ayant galopé droit devant lui depuis Paris, changeant de chevaux dans les monastères indiqués comme relais, mangeant à la hâte, parlant le moins possible, il avait devancé sans le savoir les chevaucheurs officiels.
« De quoi est-il trépassé ?»«
C'est ce que messire de Bouville veut justement faire savoir au comte de Poitiers. »«
Crime ?» chuchota Duez.
« Le roi, selon le comte de Bouville, aurait été empoisonné. »
Le cardinal réfléchit un instant.
« Voilà qui peut changer bien des choses, » murmura-t-il.
« Un régent a-t-il été désigné ?»«
Je ne sais pas, monseigneur. Quand je suis parti, on nommait beaucoup le comte de Valois. »«
C'est bien, mon cher fils. Allez vous reposer. »«
Mais monseigneur et le comte de Poitiers ?»
Les lèvres effilées du prélat dessinèrent un rapide sourire qui pouvait passer pour une expression de bienveillance.
« Il ne serait guère prudent de vous montrer par la ville et, de surcroît, vous tomber de lassitude, » dit-il. « Donnez-moi ce pli. Pour vous éviter tout reproche, j'irai le remettre moi-même. »
Quelques minutes plus tard, escorté d'un valet et suivi d'un secrétaire, le cardinal de Curie sortait de l'abbaye d'Ainay, entre Rhône et Saône, et s'engageait dans les ruelles sombres, souvent rétrécies par des tas d'immondices. Maigre, fluet, il avançait d'un pas sautillant, portant presque en courant ses 72 ans. Le bas de sa robe pourpre semblait danser entre les murs. Les cloches de 20 églises et de 42 couvents de Lyon sonnaient les premiers offices. Les distances étaient courtes dans cette ville aux maisons tassées, qui comptait quelque 20 000 habitants, dont la moitié était adonnée au commerce de la religion et l'autre moitié à la religion du commerce. Le cardinal fut bientôt arrivé à la demeure du consul Varet, chez lequel logeait le comte de Poitiers.